Interview.
1 Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes en 107.5 FM ou sur le site internet www.rdwa.fr. Pour ça, au studio est présent Fabrice Martinez. Bonjour.
Bonjour.
Fabrice Martinez, donc tu es venu à notre rencontre pour nous annoncer la prochaine date d'une conférence de presse que tu tiendras le 30 octobre 2020 à 11h, place Jules Plan. Donc une conférence de presse où tu as contacté énormément de médias, donc tu en parleras, et tu es aussi accompagné d'une expertise qui a été délivrée par le professeur Florence Bretel, comme experte auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Fabrice, comment vas-tu ?
Ben pour le coup, ça va, c'est par rebondissement, donc oui, aujourd'hui ça va, parce qu'on a reçu... Les conclusions, donc ça fait un petit bout de temps, mais le 9 septembre, on a reçu les conclusions de l'expertise que nous avions demandé, nous, parents, à l'encontre du rapport d'expertise qui avait été fait par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes, concernant l'incident, entre guillemets, de la perte de vie de notre enfant. Et en fait, c'est vrai que cette expertise nous redonne de l'élan et nous redonne de la motivation, puisque les conclusions de rapport de cette expertise démontrent la perte de chance de vie de notre enfant à 50% faute de l'État. Alors, faut bien entendre l'État, l'hôpital de Die et montrer du doigt, l'hôpital de Montélimar et notre sage-femme libérale qui, elle, se retrouve dans ce méandre... alors qu'elle n'a fait qu'ouvrir notre dossier de grossesse 3 mois après avoir s'être présentée au centre de périnatalité de proximité de Die, qui ce centre, je le redis, est le moyen de remplacement de la maternité et de son plateau chirurgical. Voilà.
Alors, avant de continuer, on peut peut-être rappeler les faits aux auditeurs, hein, pour être bien au courant de ce qui s'est passé. Et donc, je te laisse la parole, Fabrice, si tu veux bien.
Je pense que c'est toujours dans la mémoire des gens, au moins pour ceux qui nous connaissent. Le 18 février 2019, nous avons perdu notre enfant aimé, après 3 heures de prise en charge... après l'alerte que j'avais donnée à 20h, mon épouse Céline, ma compagne, mon amoureuse, a accouché par voie basse à l'hôpital de Montélimar 3 heures après, donc à 23 ans. Il s'avère que lors de l'expertise que nous avons demandée, on relève, beaucoup de zones d'ombre ont été éclairées. À savoir que ce protocole dont je parle de l'Agence régionale de santé prône devant les médias, je parle de Madame Buzyn qui, se targuait de dire à RMC 15 jours avant la mort de notre enfant que le protocole entre Valence et Die fonctionnait, donc ce qui permettait de pouvoir calquer le même protocole sur la fermeture d'autres maternités, ne pouvait pas fonctionner. Et en fait, ce rapport d'expertise nous démontre que beaucoup de lacunes lors de ce protocole étaient en place. Et déjà, beaucoup de gens qui auraient été au niveau, peut-être, alors je vais un peu vite, mais au comité de suivi de l'hôpital, monsieur le préfet, monsieur le directeur de l'ARS et compagnie, beaucoup de gens qui font partie de ce comité, auraient pu, s'ils s'étaient penchés sur la question, déceler déjà beaucoup de lacunes, quoi. Là, il s'avère que mon épouse et moi, nous étions... alors, je dis mon épouse, mais on n'est pas mariés, on est amoureux, voilà. Pour le coup, nous étions dans un parcours B, mais nous-mêmes, nous ne le savions pas. Et quand on fait partie d'un parcours B, c'est-à-dire un parcours à risque de grossesse, la Haute Autorité de Santé, dit l'HAS, a édité un protocole qui n'a pas du tout été celui que nous avons profité, en gros. Donc on nous a laissé errer, alors que c'est eux qui le disent, mais on nous a laissé entendre le fait que la seule complication que nous pouvions avoir, c'était un risque cicatriciel d'une césarienne antérieure de notre cadet en 2014. Et que pour le coup, comme on n'a pas eu de référent de grossesse, eh ben, il s'avère que la prise en charge le soir du 10 février est complètement merdée. Donc on apprend lors de cette expertise que, par exemple, et c'est une partie à nombre, que le médecin régulateur du centre 15 n'était pas formé pour ni voir les urgences obstétricales, ni voir non plus les urgences générales. Donc en fait, il y a une grosse lacune au niveau des formations des gens.
Moi, ce que je voudrais connaître aussi, ce sont les sentiments ou peut-être le vécu que tu as eu ce jour-là. De ton point de vue de papa, comment as-tu ressenti toute cette procédure ?
Oh ! Désolé de faire des onomatopées, mais pour le coup, moi, je me retrouve complètement... je suis heureux d'avoir eu des ressentis. Je suis heureux d'avoir eu des doutes et sur tout ce qu'on nous a fait ou tout ce qu'on nous a laissé entendre. Je suis vraiment heureux parce que l'ARS, deux jours après la mort de notre enfant, nous dit que l'État n'est pas... en cause, que l'État n'est pas responsable de la mort de notre enfant. Donc, en fait, il en découle tout le reste. C'est-à-dire que nous, parents, nous sommes remis en question sur le fait d'avoir voulu avoir un enfant là où il n'y avait plus de maternité. Que je me retrouve là, maintenant, sur un gros rebondissement qui fait que... pour moi, il est clair que je veux déballer... ce qui nous est arrivé sur la place publique, parce que ça nous appartient à tous. Parce que si j'avais fait comme beaucoup de gens qui ont perdu des enfants, et croyez bien que nous sommes plusieurs à être nombreux à en avoir perdu, si j'avais dû faire comme tout le monde et rentrer chez moi et faire mon deuil, pleurer mon enfant, j'aurais rendu service à personne dans la localité. Là, pour le coup, j'ai bien eu raison, accompagné de ma famille, hein, bien entendu, de demander une expertise indépendante à celle de l'ARS qui, pour le coup, fait fermer notre maternité, même si ce n'est pas le cas. Mais enfin, il va falloir qu'elle s'en défende. Et il s'avère que celle de Die a été fermée illégalement. Il y a toute une procédure là, qui a voulu nous faire entendre à nous, locaux, qu'en fait, on avait bien raison d'écouter ce que nous disaient les descendants de l'État, que là, on se retrouve confronté à un gros préjudice. C'est-à-dire que là où l'ARS nous donnait... Donc l'ARS, l'Agence régionale de santé, de par le rapport qu'elle a édité et rendu public le 7 juin 2019... là, maintenant, lors de l'expertise que nous, parents, nous avons demandé, qui nous a coûté 1 800 euros, donc je donne les tarifs parce qu'effectivement, on a l'aide juridictionnelle, on a l'assurance de la maison avec une aide juridique qui nous soutient, mais de toute façon, nous la payons. Donc, elle nous a coûté 1 800 euros, qui là démontre la faute de l'État. Donc, deux jours après la mort de notre enfant, le comité de suivi de l'hôpital, dont fait partie monsieur le directeur Jean-Yves Graal et monsieur le préfet Hugues Moutou, qui nous dit « l'État n'est pas responsable », là, comment se fait-il que, lors de cette expertise, il s'avère qu'ils sont mis en cause ? Du moins, pas forcément l'État, parce que ça va toujours être les mêmes qui vont morfler. ça va toujours être les soignants, qu'on se le dise. Quoi.
Quand j'ai lu une partie du rapport, hein, parce que je le dis honnêtement, il y en a une bonne partie à laquelle je ne comprends pas trop, puisque ça, il utilisait des termes médicaux qui me dépassent un peu, mais ce que j'ai cru lire quand même, c'est la proposition donc, de ce protocole qui induit plusieurs personnalités hospitalières et qui sont quand même assez disséminés sur le territoire. Il y en a à Valence, il y en a à Montélimar et à Die. Alors, ça fait beaucoup de monde un peu dispersé pour traiter votre enfant et sa surveillance, du moins. Comment ressentais-tu justement cet aspect-là de devoir aller soit à Valence?
Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas du tout ni en grossesse, ni les gens qui ont... qui sont proches de la maternité ne peuvent comprendre. Mais effectivement, le comité de suivi de l'hôpital est constitué de technocrates, d'élus, de sénateurs. Pour ce que je peux en dire, moi, en tant que papa, parce que réellement, j'ai le droit de dire ce que je veux et que je profite de l'instant pour le dire. En fait, ce ne sont que des soumis volontaires, y compris nos élus, qui ne se rendent absolument pas compte qu'au sein de leur comité de suivi, donc le comité de suivi, c'est le collectif qui se réunit pour définir les grands ensembles de la santé dans le Diois, il n'y a aucune personne faisant partie de la santé. Aucune. Et quand peut-être M. Graal, faisant partie de l'ARS, pourra se targuer de dire que lui, il est médecin, oui, je suis d'accord. Mais après 30 ans de travail auprès de l'ARS, ce monsieur n'est qu'un technocrate. Donc en fait, on a affaire qu'à des technocrates qui traitent la santé dans notre localité. Aucun médecin libéral, aucun médecin hospitalier, aucune sage-femme, aucun infirmier ne font partie du comité de suivi de l'hôpital. Et je vous donne cette parenthèse qui peut-être vous fera comprendre les choses, mais M. Matteron, qui aussi en fait partie, président de la communauté de communes, avait demandé à ce comité que ce soit le comité de pilotage. Et là, on leur a dit non, parce que vous n'avez pas vocation à piloter quoi que ce soit. C'est juste un comité de suivi. Voilà. Donc, pour le coup, nous avons affaire qu'à des technocrates, qu'à des gens qui sont des soumis volontaires, qui régissent et qui prédominent sur ce qu'est notre santé, au détriment de tous les gens faisant partie de la santé. Les médecins libéraux ont été les premiers à monter au créneau pour dire qu'ils ne voulaient pas faire partie de la boucle dont on leur proposait... parce que eux n'ont pas les moyens, ni techniques en matériel, ni les formations. Donc on leur a demandé, tous les médecins libéraux ont demandé à l'Agence régionale de santé que s'ils devaient être des médecins relais du SAMU, c'est-à-dire remplacer la personne au téléphone, le docteur qu'on a au téléphone au centre 15 par un médecin physique, il leur fallait des moyens. Eh bien, on ne leur a pas donné les moyens. Si bien que là, on se retrouve maintenant avec un tableau de médecins qui peuvent être relais du SAMU, qui est basé sur le volontariat. Donc, comme on a des médecins régulateurs qui ne sont pas néfastes, mais qui ont des choses à dire concernant le protocole qui a été mis en place, il est pas anodin que ces gens-là ne s'inscrivent pas sur le tableau. Ne serait-ce que par désinvolture et ne serait-ce que pour démontrer qu'il y a vraiment réellement un problème quoi, au niveau de la santé. Comment ça se fait que ce soit des technocrates qui définissent la santé dans notre localité? Moi, je me pose la question et que ce n'est pas étonnant que notre enfant soit décédé, que ce n'est pas étonnant qu'il y ait d'autres enfants qui soient nés au bord des routes, ce qui en fait des faits divers. Hein. Voilà, un incident au bord de la route, un accident, un enfant qui meurt. Quoi. Voilà.
Par rapport au premier signe de grossesse de Aimé, qu'est-ce qui s'est passé au niveau médical et au niveau du suivi des services hospitaliers?
Ça, c'est réellement inscrit dans le rapport. Pour ceux qui veulent le lire et le décortiquer, vous aurez matière le 30 octobre pour la conférence de presse que nous mettons en place pour le voir. Mais en fait, il s'est passé que des ignominies qu'on découvre après. On se présente, ma compagne et moi, nous nous présentons au centre de périnatalité de proximité de Die pour dénoncer, en gros, alors dénoncer c'est négatif, mais pour nous annoncer la grossesse de notre enfant. Et il s'avère que sur les analyses de sang, on découvre que nous avons la toxoplasmose, qui est une maladie qui n'est pas anodine. Mais on oublie dans l'ordonnance de marquer, par exemple, le fait qu'on soit de marquer les marqueurs de grossesse. Donc en fait, on a fait une analyse de sang, pas pour dénoncer et pas pour nous annoncer la venue de notre enfant, mais justement pour nous annoncer la toxoplasmose. Donc en fait, il y a le centre de périnatalité de Die n'est pas du tout opérationnel dans notre cas, pour ce que j'en sais. Alors évidemment, maintenant, ça a dû évoluer. Depuis un an et demi, ils ont dû se faire fort, mais d'évoluer le protocole. Mais que pour le coup, nous, quand nous présentons au centre de périnatalité de Die, on nous annonce une maladie en nous disant qu'ils ont oublié de demander au laboratoire d'analyser la progestérone qui prouverait notre grossesse.
Mais quelle a été la procédure qu'on vous a proposée à ce moment-là ?
Nous sommes...
Et qu'est-ce qu'on vous a laissé entendre dire des services hospitaliers concernant cette grossesse à risque ? Puisque je reviens quand même, vous avez eu quelques antécédents avec les enfants précédents. Donc, indéniablement, les services hospitaliers sont censés connaître le suivi d'une personne pour ses difficultés de santé. Est-ce que tout ça a été pris en compte pour aimer ?
Forcément que non. Bien sûr que non. En fait, on se retrouve face... Heureusement que nous, parents, nous avons demandé l'expertise auprès du tribunal administratif qui a été mandaté par une experte de l'hôpital de la Timone pour enfants à Marseille, dans laquelle nous sommes déplacés et nous avons été. Et dont cette experte a entendu toute la boucle concernant notre grossesse. Bien sûr que non, on n'a pas été suivi dans un protocole qui aurait dû être le nôtre, bien sûr que non.
Et être informé aussi
de... Ah mais bien sûr que non, on a été informé de rien. La seule information que nous ayons eue, c'est que nous ne pouvions, de toute façon, même si on avait voulu, nous n'aurions pas pu accoucher à la maison, donc dans des conditions qu'on aurait pu éventuellement nous choisir en tant que parents. Nous ne pouvions pas accoucher ni à domicile ni ailleurs. Ni en bord de route, en gros, parce que nous avions déjà eu un antécédent de grossesse qui, en 2014, s'est avéré par un décollement de placenta, donc ce que les experts appellent un HRP, c'est-à-dire un hématome rétro-placentaire. Pour le coup, au vu de ce qui nous était déjà arrivé, nous aurions dû, de toute façon, être à l'hôpital. Ce qu'on nous a bien laissé entendre. Sauf que, donc dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous, on nous a laissé... nous étions dans un parcours B. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un parcours B, c'est un parcours qui est dit à niveau à risque par la Haute Autorité de Santé, qui, elle, de son côté, a fait tout un protocole, c'est-à-dire un couple qui est à niveau B se doit d'avoir un référent de grossesse et où, derrière, il y a tout un staff, donc toute une équipe qui est, entre guillemets, orientée par le référent de grossesse. Nous savions que nous étions dans un parcours B, du fait du risque cicatriciel de la césarienne antérieure en 2014.
Ça, on vous l'a notifié que vous étiez dans quelque sorte un parcours B.
Non, pas dans la grossesse. Non, absolument pas. Nous, on nous a juste dit, vous devez accoucher à l'hôpital parce que vous avez eu une césarienne auparavant et qu'il est clair qu'avec une césarienne, il y a des risques cicatriciels. hein, qui donc la cicatrice intérieure peut rompre et donc hors de question que vous accouchiez ailleurs qu'à l'hôpital. Bon, bon. Donc évidemment, pour moi, papa, ben, c'est clair qu'on doit l'accoucher à l'hôpital. Alors lequel ? La question est posée. Ben, il s'avère que Montélimar a une chambre très proche du service de maternité, dans lequel se trouvent tout un tas d'accessoires, des coussins, des ballons, des tapis, sur lesquels ben, la parturiente peut éventuellement vouloir mettre au monde dans une... dans un physiologiquement, voilà, peut mettre au monde un enfant physiologiquement, c'est-à-dire dans la position dans laquelle l'enfant veut bien passer le col de l'utérus. Voilà. Et il s'avère que s'il y a une complication, on pousse deux portes et on se retrouve dans le service de maternité dans lequel il y a la chirurgie. Donc en fait, nous, en tant que parents, en étant inconscient d'un cas de récidive d'un HRP, d'un hématome rétroplacentaire ou plus vulgairement d'un décollement de placenta, nous avons fait le choix d'aller là-bas. Mais il est bien inscrit. Alors je dis bien inscrit parce qu'il a été dit, mais il a été inscrit aussi dans le rapport de l'expertise que vous pourrez venir voir et entendre et nous solliciter le 30 octobre lors de la conférence de presse, que quoi qu'il en soit, on ne nous avait absolument pas du tout sensibilisé sur le fait qu'on pouvait faire un cas de récidive. Donc en fait, le rapport de l'expertise de l'ARS, qui est paru le 11 juin 2019, nous laisse entendre que, ben effectivement, les risques de décollement de placenta pouvaient... on pouvait entendre qu'on puisse refaire et qu'au final, on se retrouvait dans les 25% de personnes récidivistes. Sauf que dans le dossier que nous possédons, nous, de l'expertise qui est parue le 9 septembre, de l'expertise que nous avons demandé, nous, parents, il s'avère qu'entre 0,6 et 1% des femmes enceintes peuvent déclencher un décollement de placenta. C'est-à-dire que c'est énorme. En termes de la santé, c'est vraiment énorme. N'importe quelle femme enceinte peut générer un décollement de placenta. Et en plus de ça, sur la littérature de santé, il est inscrit qu'une personne qui a déjà fait un décollement de placenta, ce qui était notre cas auparavant, en 2014, a 100 fois plus de chances de récidiver. Comment se fait-il qu'on n'ait pas été vraiment pris dans un parcours B ? Alors que nous avions... lors de notre première entrevue au centre de périnatalité de proximité de Die, comment ça se fait que nous ayons une gynécologue obstétricienne qui plus est chef de service de la maternité de Die, en connaissance de toute la littérature concernant les HRP, comment cette femme a pu nous dire lors de l'expertise de l'ARS qu'elle n'avait fait que des échographies. Comment se fait-il que cette personne-là ne nous ait pas suivis jusqu'au bout ? En fait, on s'est retrouvé à se faire traiter de couple le plus faible, en gros du DIWA, le couple le plus faible au niveau des enfants du DIWA, ce qui ne veut pas dire que nous sommes des individus faibles, hein, mais le couple le plus faible du DIWA, alors qu'on a... avec une pathologie rarissime que nous possédions, alors qu'il s'avère que nous n'avions pas de pathologie, si ce n'est qu'un incident de parcours avec un décollement de placenta qui peut arriver, je le redis, entre 0,6 et 1% de toutes les femmes. Et en plus de ça, comment se fait-il que cette personne-là, qui gère le centre de périnatalité de proximité de Die, venant de Valence et étant chef de service, puisse ne passer à côté des 100 fois plus de chances de récidive de décollement de placenta. En fait, cette personne-là est le déclencheur de toute la procédure. C'est-à-dire que nous nous retrouvons face à un manquement de responsabilité et qui, pour le coup, m'ampute, moi, de mon enfant, qui, lui, voulait vivre et qui, en étant mort, dénonce... un manquement à la procédure.
Qu'en est-il de la transmission ou des communications du dossier médical entre les divers services qui ont traité cette grossesse? Est-ce que, à tes yeux, et en fonction de ce rapport, de cette expertise, tout a été suivi ou alors il y a eu des carences?
Mais les carences, elles sont démontrées dans le dossier d'expertise. Mais le dossier d'expertise est vraiment une valeur à mes yeux. Dans le sens où elle dénonce tout ce que moi je pressentais dans mes viscères, en tant que papa. Je parle bien en tant que papa, vraiment, réellement. Là où toutes les services de santé occultent le papa parce que en fait c'est une personne connexe à la grossesse. Pour moi, ce dossier il démontre toutes les lacunes réelles du dysfonctionnement. D'un protocole qui a été mis en place dans un horizon d'économie, réellement d'économie financière, au détriment de l'humain. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'Agence régionale de santé ne sera absolument pas du tout... inquiétée, dans le sens où elle est là, la police de la santé. En fait, encore une fois, ça, on va encore parler des soignants. Qui a fait des lacunes dans le fait d'être référent de grossesse? C'est encore une fois un humain. Qui a merdé au niveau du fait d'avoir ouvert notre dossier de grossesse 3 mois après nous être présenté à ce qu'on appelle le remplacement de la maternité et de la chirurgie de Die, quoi. 3 mois après, c'est-à-dire que pendant 3 mois, le centre de périnatalité de proximité de Die n'a pas été foutu d'ouvrir notre dossier de grossesse. Et il s'avère que c'est notre sage-femme libérale, que pour le coup, c'est moi en tant que papa, à qui j'ai fait appel pour essayer de faire un intermède entre les hormones que comportait mon amoureuse et moi, pour que cette personne-là, notre sage-femme libérale, puisse être une intermédiaire, entre guillemets. Sachant très bien que notre sage-femme que nous avions choisie ne pouvait pas, de toute façon, de par la haute autorité de santé, ne pouvait pas nous accompagner jusqu'à l'accouchement. Mais en fait, c'est moi, en tant que papa, qui fais appel à une sage-femme libérale pour essayer de faire l'intermédiaire. Comment se fait-il qu'elle ouvre notre dossier, cette personne-là, qui nous, parents, nous avons fait le choix, c'est nous qui l'avons sollicité, elle se retrouve confrontée dans la tumulte après avoir ouvert un dossier. Et c'est ce qu'on lui reproche. C'est juste d'avoir ouvert notre dossier de grossesse. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'elle l'a fait 3 mois après. Donc... sous-entendu, comme je peux dire ce que je veux en tant que papa et que je ne suis pas soumis au secret professionnel, c'est qu'au centre de périnatalité, ce sont des bons à rien concernant notre grossesse. Après, je mesure mes paroles dans le sens que ce sont des individus qui ont œuvré toute leur vie dans la santé, mais que pour notre grossesse, ils ont été bons à rien. Ils se sont juste... ce sont des soumis volontaires. Ils se sont conformés au protocole que l'ARS leur a demandé. Moi, pour le coup, je suis convaincu, j'en veux pas aux soignants, alors que le dossier de l'ARS nous mettait des gens en face, des individus en face, pour les asséner au tribunal, pas administratif, mais au tribunal pénal. Là, moi, pour le coup, c'est absolument pas après des individus que j'en ai. C'est après un protocole, c'est après une politique qui fait qu'on se retrouve avec un centre de périnatalité qui est dit remplacer une maternité avec une chirurgie, alors qu'ils ont agrémenté d'un hélicoptère. Mais il faut savoir que le centre de périnatalité ne soigne pas les personnes en grossesse. L'hélicoptère ne soigne absolument pas. Et que dans le rapport que nous avons entre nos mains, de l'expertise que nous, parents, nous avons demandé, il s'avère que 1h20 pour venir pour faire un sauvetage, entre guillemets, pour venir secourir une femme enceinte, 1h20, c'est un temps incompressible. Alors moi, je vous assure, les gens qui m'écoutaient, si je ne vous ai pas encore saoulé avec tous mes mots, venez, s'il vous plaît, venez le 30 octobre sur la plage Villeplan à 11h. Venez rencontrer les médias, venez dénoncer ce qui se passe. Je vous assure que je suis le premier à vous demander de venir, mais je suis obligé de vous demander aussi de respecter les gestes et les règles barrières qui fait que les masques, qui fait que... Mais venez nombreux, s'il vous plaît, pour dénoncer un protocole dont nous avons la preuve, nous, en tant que parents, d'une discorde et d'une discordance entre le rapport de l'ARS qui avait été pondu en 35 pages et où moi, papa, j'ai pas absolument pas voulu vous le divulguer à vous, locaux, parce que ça aurait été la division de tout le monde. Venez entendre ce qui se dit le 30 octobre sur la place Jules Plan à 11h et vous verrez que vous pourrez être entendu. Et j'appelle de ce fait à la convergence des luttes. Le nouvel hôpital qui se devrait d'être construit, tant qu'on n'a pas réglé l'affaire de Aimé et de la maternité de la chirurgie, je ne vois pas bien pourquoi on ferait un hôpital à la va-vite.
Quant au rapport de l'ARS concernant le premier rapport qui est sorti en juin 2019, donc, est-ce que vous avez été rapproché par les enquêteurs par rapport à cette enquête sur...
Oh ben non.
Non. Et justement, et contrairement à l'expertise avec professeur Florence Bretel, est-ce que vous avez aussi eu un contact avec cette personne ?
Ah ben non plus. Ah oui, alors avec...
Comment ça se passe justement pour constituer un dossier de cette sorte ? Est-ce qu'on auditionne toutes les parties ? Vous, est-on compris ou pas ?
Alors oui. Alors concernant la... Concernant le rapport de l'ARS, donc le tout premier rapport qui a été commencé à être établi par l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes dû à l'incident de la mort de notre enfant, et j'insiste bien sur l'incident parce que c'était les mots, pour le coup, on a été rapprochés, nous, parents, pour amener des éléments que eux ne possédaient pas. Donc en fait, après m'être rapproché de différentes personnes juridiques, dont des avocats, il m'a été stipulé que les preuves que moi je possédais qu'en fait il était avéré que j'avais pas à les fournir. C'était pas à moi ni nous, à famille dans les Arrois, à fournir des preuves concernant l'expertise. Donc, en fait, quand ils m'ont demandé le rapport, un rapport médical qui était affilié entre le centre de périnatalité de Die et Montélimar, qui n'a rien à voir avec un dossier informatique, c'est un dossier papier. Quand l'experte de l'Agence régionale de santé m'a appelé pour que je lui donne le dossier que nous possédions, nous, famille, je l'ai invité à aller se gratter les fesses. Et que pendant ce temps qu'elle se grattait les fesses, elle pouvait mieux envisager l'avenir. Donc, je n'ai pas voulu lui donner. Par contre, oui, lors de l'expertise que nous, parents, nous avions demandé, effectivement, il m'a été demandé de donner le dossier, ce qu'on appelle le dossier ODIPOG, qui est un dossier papier. Bien sûr que je l'ai donné lors de l'expertise. Et il s'avère que cette expertise, elle s'est déroulée à Marseille. Donc à l'hôpital de la Timone pour enfants, dans lequel, au vu du Covid, il était demandé d'avoir un minimum de personnes en présence et un maximum de personnes en visioconférence. Donc pour nous, famille, il était clair que nous devions être présents physiquement. Donc, en fait, nous avons répondu à l'experte qui nous a sollicité de nous garder une place accompagnée de notre avocate. Et il s'avère que lors de cette expertise à Marseille, nous nous sommes rendus compte, nous, parents, qu'il y avait toutes les personnes qui faisaient partie de la boucle dans laquelle nous étions. Le centre de périnatalité de Die, l'hôpital de Valence, l'hôpital de Montélimar, l'agence régionale de santé, l'avocat de l'agence régionale de santé, le SDIS, donc le centre de... Je me risquerai pas...
Centre départemental d'intervention et de secours.
Voilà, de secours. Donc, sous-entendu, les pompiers. Enfin, toutes les personnes qui étaient... qui avaient été dans notre cas, c'est-à-dire tous les gens faisant partie de la boucle. Et en fait, l'experte n'a pas été avare, justement, de questions. Et la toute première question était de savoir qui, de tout l'ensemble des gens qui étaient et présents et en visioconférence, qui a suivi ce couple. Et en fait, il y a eu un gros bredouillage. C'est-à-dire qu'en somme, personne ne nous avait suivis. Donc moi, par contre, ce que j'en dis, là, aujourd'hui, c'est que malgré tout, on n'a pas été suivis, et donc on est en expertise. Là, il s'avère qu'on est en droit d'être indemnisé. Donc, au vu de l'expertise que nous avons demandée, l'experte dénonce 50%. Donc, sur les 100% de chances de mort de notre enfant, il y a 50% qui est de mort de notre enfant, de perte de chance, 50% qui est dénoncé par la littérature de santé. Un hématome rétroplacentaire, même au sein d'une maternité, peut être voué à l'échec, c'est-à-dire avoir un enfant décédé. Par contre, 50% de perte de chance de notre enfant est dénoncé par notre experte, enfin par notre, non, par l'experte mandatée par le tribunal administratif qui a répondu à notre demande, nous parents, dénonce l'hôpital de Die, l'hôpital de Montélimar et notre sage-femme libérale qui, en fait, se retrouve à avoir ouvert notre dossier de grossesse. 3 mois après, je le rappelle, hein, parce que j'œuvre pour sa défense, parce que c'est nous qui l'avons choisi. Donc, pour le coup, nous nous sommes retrouvés en tant que parents face à toute la boucle nous concernant. Et il s'avère que lors de ce dossier, et en étant présent à cette expertise, nous avons eu de la lumière sur beaucoup de zones d'ombre. Nous nous apercevons, par exemple, que dans le dossier de l'ARS post-mortem de notre enfant, il est avéré que celui qui a merdé, c'est le médecin régulateur du SAMU. En fait, effectivement, il a merdé totalement, parce que au moment où moi j'ai appelé à 20h, il y avait 83 personnes aux urgences de Valence avec une pénurie de médecins. Donc le médecin régulateur du SAMU prend l'initiative individuelle et personnelle de prendre le téléphone de la régulation du centre 15, le téléphone du service des urgences dans sa poche et va soigner les 83 personnes qui y sont alors qu'il n'y a personne pour le faire à sa place. Donc forcément, elle ne voit pas l'hélicoptère qui est revenu de Obena, alors qu'il était parti quand elle a pris sa relève, et entre-temps il est revenu, elle ne le voit pas forcément puisqu'elle est 2 étages en dessous. Donc forcément, de là où elle est, elle ne peut pas voir notre dossier obstétrical non plus. Ça veut dire que quand moi je donne toutes les informations qui m'a été demandées, moi en tant que papa, qui en cas de problème, vous donnez le nom de votre femme, vous donnez la localité, vous donnez l'âge, vous donnez la date de naissance, vous donnez tout un tas de signes qui m'avaient été donnés concernant ce protocole, ben forcément on comprend bien que cette personne-là, étant aux urgences, n'est pas devant son ordinateur pour voir ce qu'il en est. Mais ce qu'on découvre, et c'est celle-là, la zone d'ombre de foireuse, de merde que l'ARS ne donne pas et que l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes ne veut pas dévoiler, c'est que même si elle avait été devant son ordinateur, cette dame, comme elle n'était pas formée pour naviguer sur le logiciel CrystalNet, cette dame, malgré tous les points qui m'avaient été donnés à moi, papa, de donner lors d'une urgence, elle n'aurait été absolument pas du tout informée parce qu'elle ne pouvait pas aller voir notre dossier de grossesse et elle ne pouvait pas aller le voir. Donc au final, c'est une grosse lacune que l'hôpital de Valence dénonce. Donc en fait, le protocole, quand on dit le protocole fonctionne, ben non, il fonctionne oui sur le papier, mais il ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on peut remplacer un centre 15 foireux avec des médecins qui peuvent, des médecins libéraux, dont on a moult ici dans notre localité, ce qui n'est pas le cas ailleurs, hein, dans notre localité, je vous le dis. On a beaucoup de médecins libéraux ici. Même les médecins libéraux, ils ne sont tellement pas rentrés dans la boucle qu'en fait, on leur demande de faire du volontariat et comme ils sont à l'encontre de ce qu'on leur demande, ils ne se positionnent pas sur les tableaux volontaires, sur la présence. Donc en fait, on se retrouve complètement démunis, mais démunis totalement. Donc en fait, un hélicoptère et un CPP de merde dans lequel ils ont complètement foiré et ils ont foiré sur notre grossesse qui s'est traduit par un drame, mais ils ont foiré aussi et d'autant plus sur les 5 personnes qui ont accouché au bord des routes, qu'on se le dise. Merde.
Eh bien, tout ça, nous allons le retrouver donc ce 30 octobre à 11h, place Jules Plan, par cette conférence de presse que tu donneras. Et donc, pour cela, tu as contacté énormément de médias. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler rapidement.
Oui, rapidement. Nous, en tant que parents, nous sommes rapprochés du collectif de défense de l'hôpital. Et je répète, le collectif de défense de l'hôpital. Parce que si vous avez vu le journal de foireux du JDD, quoi qu'il en soit, vous verrez que des médias ont été sollicités. Donc nous, en tant que parents, nous nous mettons derrière la défense, le collectif de défense de l'hôpital, parce que forcément, ils ont un empirisme. Et donc empirisme, ça veut dire qu'ils ont un historique qui est tellement achalandé que nous, parents, forcément, nous agrémentons la défense, le collectif de défense de l'hôpital. Sauf que, et je dis sauf, mais non, faut bien imaginer qu'il y a deux entités qui proposent une conférence de presse. Deux entités dans le sens où le collectif de défense de l'hôpital, avec tout l'historique qu'il a, agrémenté de l'histoire qui nous est affublée, à nous, parents, de aimer, vont œuvrer. Par contre, au sein même de cette conférence de presse, il y aura une autre entité, c'est-à-dire nous, familles, qui ne sommes pas forcément proches du collectif de défense de l'hôpital. Et qui, pour le coup, auront peut-être des choses autres à dire, qui n'iront pas forcément à l'encontre de ce que le collectif. Mais le collectif de défense de l'hôpital va être très précis. Va sortir du rapport des choses qui seront très utilisables par les médias. Parce que si on diffuse l'intégralité de ce dossier qui est propice à des gens qui connaissent le sujet, c'est-à-dire que nous, parents, nous nous retrouvons maintenant face, pas face, mais nous nous retrouvons avec des experts, forcément, puisque nous suivons l'histoire depuis longtemps et que nous la faisons évoluer. Donc forcément, lors de cette conférence de presse, ne vous étonnez pas s'il y a deux sons de cloche, c'est-à-dire des parents qui sont qui vocifèrent pour la perte de leur enfant et par contre un collectif de défense de l'hôpital qui sera beaucoup plus peut-être moins alarmiste et beaucoup plus conscient de ce qui se passe, de façon à ce qu'on puisse retrouver, parce que c'est ça le but, hein, c'est qu'on puisse retrouver une dignité dans notre localité de santé. J'ouvre le débat là maintenant avec le peu de temps qui nous reste, c'est posons-nous la question, en tant que papa, qu'est-ce que le protocole fait ? Rien. Quand un pion du collège amène un enfant qui n'est pas le sien aux urgences de Die, par exemple, et qui les urgences incapables de traiter l'affaire l'envoient à Valence, on envoie un enfant tout seul, sans ses parents, et même c'est pas sûr que ses parents aient pu être contactés, à Valence, C'est un vrai long moment de solitude. Qu'est-ce qu'on fait pour les aidants? Les aidants qui œuvrent tous les jours, avant et après leur travail, pour des gens qui sont peut-être handicapés ou qui ont des pathologies. Qu'est-ce qu'on fait quand l'hôpital de Die, les urgences de Die, disent « Ben, nous, on n'est pas capable de gérer parce qu'on est bon à rien ». Ce que je dis, parce que bon à rien, ce n'est pas les gens qui sont bons à rien, c'est parce qu'on ne leur laisse pas les mains libres, ni le matériel, ni les formations, ni la possibilité de pouvoir faire autre chose que d'en passer par l'hôpital de Die, de Valence. Pardon. Eh bien, quand on envoie les gens à Valence, c'est un long moment de solitude. Qu'est-ce qu'on fait? On passe notre journée à faire des allers-retours à Valence. C'est quoi l'histoire pour les gens qui sont en dehors du problème de santé? Les accompagnants, les papas, qu'est-ce qu'on fait pour les papas? Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour nous?
Bon. Voilà. Et donc, il y aura beaucoup d'autres questions hein, ce jour-là du 30 octobre.
Mais moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Et puis, j'espère pour beaucoup que vous diffusiez l'émission et que vous... L'appel, vraiment le résumé de cette interview, c'est s'il vous plaît, prenez le temps, venez à la conférence de presse, venez rencontrer les médias, parlez-leur de vos problèmes. Parlez-leur des choses qui sont inhérentes à notre localité. Parce que pour moi, si on fait venir des médias qui sont autres que Radio Diwa et que le JDD et que le Dauphiné, profitez de cette aubaine pour leur parler, j'en sais rien, par exemple, de l'instruction en famille, qui fait partie aussi du fait d'avoir un hôpital et une maternité et une chirurgie ici. Comment se fait-il qu'on puisse complètement dénaturer notre santé, ce qui fait que, par affiliation, on dénature tout le reste? Venez, s'il vous plaît, venez nombreux à l'appel de cette émission, le 30, en respectant les gestes barrières, venez masquer, et surtout venez pour alpaguer les médias qui seront là, parce que je pense que notre combat de parents qui évolue ne peut pas être sans vous, quoi, réellement.
Fabrice Martinez, je te remercie de nous avoir donné un peu de temps pour cette annonce de conférence de presse et je te souhaite une bonne soirée quand même.
Ouais, et en fait, comprenez bien que c'est pas parce que j'ai perdu un enfant que forcément je vous aime pas, tous, les gens qui me reconnaîtront. Et que réellement, depuis qu'on a perdu notre enfant, il y a beaucoup de gens qui savent pas se comporter face à des gens qui ont perdu un enfant. Et en fait, on se retrouve démunis, on se retrouve coupable d'avoir perdu un enfant par le déni de beaucoup de gens qui osent pas venir nous rencontrer. Merde, à un moment donné, c'est vrai qu'on était agent socioculturel dans notre village. Là, on a les bras qui tombent parce que depuis notre affaire, tout le monde se doit de se taire parce que pour les professionnels, on a diligenté une expertise, mais que pour le coup, on se retrouve désocialisé. Et il y a une phrase dont je ne vous redonnerai pas le nom, mais quand on perd un individu, tout est désocialisé. Et c'est ce qui s'avère pour nous.
Au revoir.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et au revoir. Au 30.
L'interview du jour.